Retour en début de journal sur cette bagarre générale au Kwandu Beach qui agite le week-end. Plusieurs personnes ont été interpellées. Après la visite de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, sur le territoire la semaine dernière, l'heure est au bilan pour les acteurs politiques et économiques. Le bac de la YM partiellement fermé jusqu'au 28 novembre. La direction de l'aménagement et du foncier de la province Nord annonce des travaux de maintenance. Fin du tour de Calédonie pour la caravane de l'entrepreneuriat. Une soixantaine de lycéens de Jules Garnier ont parcouru avec leurs professeurs l'ensemble du territoire et rencontré les élèves des autres communes. Le sport avec un nouveau Calédonien qui a brillé hors du territoire. Victor Tirbac a remporté ce lundi les Océania de force athlétique dans la catégorie Open, moins de 120 kilos. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le pire a été évité dimanche matin sur la plage du Kwandu Beach. Plus de 80 policiers ont été pris à partie par 200 personnes, dont une bonne partie était fortement alcoolisée. Le commissaire général Marjorie Ghisoli, directrice territoriale de la police nationale, a donné des précisions sur les faits. Jean-François Baudin.
Vers 6h30, les pompiers ont été appelés sur place pour prendre en charge une personne qui avait été blessée dans une bagarre. Le contexte était hostile et les pompiers ont donc demandé le renfort des forces de l'ordre. La suite des événements avec la directrice de la police nationale, Marjorie Ghisoli.
Nous sommes arrivés pour assurer cette sécurisation. Le blessé, qui était très légèrement blessé, donc, n'a pas été transporté à l'hôpital. Et s'en est suivi une seconde rixe qui a commencé sur la plage. Et là, bien évidemment, nous avons commencé à intervenir pour mettre fin à la rixe. C'est là où 200 énergumènes très énervés, très alcoolisés et très violents s'en sont pris aux forces de l'ordre, ont voulu en découdre avec les forces de l'ordre et donc il a fallu très rapidement faire venir du renfort, ils étaient très nombreux, pour mettre fin à ce désordre, à ces troubles à l'ordre public qui ont été d'une violence extrême avec des jets de projectiles, des entraves, des volontés réelles d'en découdre avec les forces de l'ordre.
L'intervention a été particulièrement délicate. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène et ont arrêté plusieurs de leurs agresseurs.
On a fait 4 interpellations sur des violences contre les forces de l'ordre, un refus d'obtempérer, un outrage. Donc, sous l'autorité du procureur de la République, les enquêtes sont en cours. Et nous avons aussi, mis à l'abri, moi c'est comme ça que j'appelle ça, 6 personnes qui étaient en ivresse publique et manifeste. Les autres ayant quitté évidemment les lieux, nous en avons escorté la plupart pour bien évidemment qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ne commettent plus de quelconque souci d'ordre public ailleurs que sur cette plage.
Heureusement, ce type de situation n'est pas trop fréquente, mais une fois encore, elle a été causée par une forte consommation d'alcool. Le problème, ce n'est pas la fête, on peut la faire raisonnablement, a tenu à ajouter Marjorie Ghisoli, mais la surconsommation d'alcool est en revanche un vrai fléau.
J'en appelle à la responsabilité collective parce qu'on voit les dégâts collatéraux que le fait de boire de l'alcool excessivement entraîne. Et moi, au-delà de toutes les mesures que l'on prend, au-delà de toutes les préventions que l'on fait, au-delà de toute la vigilance et des contrôles des services de police, au-delà, encore une fois, de toutes les mesures que l'on peut prendre à quelque niveau que ce soit l'État, que ce soit les élus, que ce soit les collectivités, que ce soit les associations, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que tout le monde se responsabilise. Il est urgent que ces événements-là ne se reproduisent pas et que, encore une fois, collectivement, on soit très attentif à comprendre les uns les autres que l'alcool est un fléau pour la tranquillité publique. Et pour soi-même, parce qu'évidemment derrière, ça crée des violences, ça crée des bagarres, ça crée des rixes.
Et malgré la violence de cette rixe, dimanche matin, seul un gendarme mobile a été légèrement blessé.
Une consultation citoyenne anticipée avant l'adoption de la loi constitutionnelle. C'est l'annonce faite par Naïma Moutchou au terme de son premier déplacement en Nouvelle-Calédonie. La décision a été prise vendredi à l'issue d'une séquence d'échanges avec l'ensemble des délégations politiques favorables à l'accord de Bougival. Les partenaires s'engagent aussi à poursuivre des discussions relatives à la mise en œuvre de l'accord et ils soutiennent le lancement d'un plan de relance à la hauteur des défis de la Nouvelle-Calédonie. Le point le plus novateur, c'est l'organisation d'une consultation citoyenne anticipée, Elisabeth Noir.
Une consultation citoyenne anticipée, cela signifie qu'elle se déroulera avant le congrès de Versailles qui doit adopter la loi constitutionnelle. Ce sont les Calédoniens qui seront appelés à s'exprimer avant les parlementaires. Selon nos informations, cette consultation citoyenne nécessitera auparavant l'adoption par le Parlement d'une loi qui devra fixer la question exacte à poser et le corps électoral qui sera amené à s'exprimer. On peut penser que ce corps électoral sera le corps électoral spécial consultation qui s'est prononcé lors des trois référendums complétés par les natifs. C'est en tout cas ce qui était prévu dans l'accord de Bougival. Quant à la date de la consultation, ce sera probablement en février, conformément là encore au calendrier envisagé lors de la signature de l'accord de Bougival. Les autres points sur lesquels se sont accordées les délégations politiques, c'est, rappelons-le, le soutien à l'accord de Bougival, l'engagement à poursuivre des discussions relatives à la mise en œuvre de l'accord, notamment à apporter les éclaircissements nécessaires, et enfin le lancement d'un plan de relance à la hauteur des défis de la Nouvelle-Calédonie.
Mais les annonces faites par Naïm Mamoudchou suscitent diverses réactions dans la classe politique calédonienne.
Initialement prévue après l'adoption de la loi constitutionnelle, la consultation des Calédoniens devrait donc avoir lieu avant, et cette annonce de la ministre des Outre-mer a été saluée par les partisans de la France. La visite de Naïm Mamoudchou se conclut positivement, a réagi Virginie Rufnacht, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, que vous avez pu entendre dans nos précédentes éditions. Elle estime que la consultation citoyenne fera des Calédoniens les véritables juges de paix. Satisfaction aussi pour Sonia Baquès, que vous avez entendu également, interrogée sur la consultation citoyenne anticipée pour demander aux Calédoniens s'il faut poursuivre ou non le processus de Bougival. La chef de file des loyalistes estime que c'est une bonne idée. Elle souligne également que lors de la dernière réunion plénière vendredi, Naïm Mamoudchou a confirmé qu'elle souhaitait avancer sur le volet institutionnel, mais aussi sur le volet économique. Calédonie Ensemble, qui participait également à la réunion plénière, est plus réservée sur l'organisation de la consultation citoyenne anticipée. Dans un communiqué, le parti de Philippe Gomès affirme que cette consultation ne saurait contourner une formation politique hostile à l'accord, mais qu'elle doit consacrer un consensus préalable. C'est ce que confirme le secrétaire général de Calédonie Ensemble, Philippe Michel. Il dit ne pas être défavorable au principe de cette consultation des Calédoniens, mais il pose deux conditions expresses.
La première, c'est que l'accord politique objet de la consultation fasse l'objet de modifications et de compléments dans le sens souhaité par les mouvements indépendantistes, c'est-à-dire non seulement l'UNI, mais également l'UCFLNKS, concernant l'identité kanak, la culture kanak, l'exercice effectif du droit à l'autodétermination, la répartition des sièges congrès par province et un certain nombre d'autres sujets qui nécessitent d'être complétés, éclairés ou explicités. La deuxième condition, c'est qu'évidemment ces modifications sur la base de l'accord de Bougival soient approuvées par l'UCFLNKS dans le cadre d'un consensus. Et puis la troisième condition, c'est que tout ça soit assorti, comme l'était l'accord de Bougival, d'un volet économique et financier de relance de l'activité économique, de l'emploi et du rééquilibrage des budgets publics, parce que le pays est dans un état absolument catastrophique et nécessite impérativement la solidarité nationale autrement que par des prêts qui nous surendettent.
Et pour Calédonie Ensemble, il est clair que l'on ne peut pas faire sans le FLNKS.
Je pense que l'histoire nous a appris qu'à chaque fois qu'on essayait d'avancer sans ou contre le FLNKS, les choses se passaient mal. La dernière fois qu'on a tenté ce type d'approche, ça nous a conduit aux événements du 13 mai qui ont mis le pays à genoux. Et je suis persuadé que si on veut construire ensemble, dans un avenir de paix et de destin commun entre les Calédoniens, l'avenir de notre pays, il faut, comme on l'a fait au moment des accords de Matignon, comme on l'a fait au moment de l'accord de Nouméa, trouver un consensus. Le consensus, c'est pas l'unanimité, mais qu'en tout cas, entre les principaux acteurs politiques, il y ait un consensus, alors fait de concessions réciproques, hein, puisque c'est le principe d'un consensus, qui permette d'avancer.
Et concernant les aides économiques et le plan de relance, Calédonie Ensemble souligne que l'État a une responsabilité particulière vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie et que la solidarité nationale doit s'exprimer. Des réserves aussi de la part de l'éveil océanien qui participait lui aussi à la réunion plénière avec la ministre des Outre-mer. Son président Mila Kouloto Koumouli réagit d'abord au changement de calendrier et il estime que tout cela est flou.
L'étape suivante, c'était de faire passer le projet de loi constitutionnelle au Parlement. Or, il se trouve qu'il n'existe pas de majorité au Parlement pour faire passer le projet de loi constitutionnelle. Et donc la ministre, après une semaine d'échanges bilatéraux et en séquence plénière, demande un changement de programme, c'est-à-dire une consultation anticipée. Par quelle opération ? Ben ça, on ne sait pas. Avec quelle question ? Ben ça, on ne sait pas. Avec quel corps électoral ? Ben ça non plus, on ne sait pas.
Et l'éveil océanien a réuni un comité directeur samedi pour faire le point sur les annonces de Naïma Moutchou. À l'issue de cette réunion, il pose des conditions à la ministre.
Ça va dépendre du traitement financier que l'État aura auprès de la Nouvelle-Calédonie. Parce que pour le budget de 2026, il manque déjà 50 milliards de recettes. Il va manquer 10 à 12 milliards pour l'URIAM, 8 milliards pour les retraites. Il manque un vaste plan d'investissement, qu'il soit public ou privé. On attend de voir déjà si la Calédonie est française au premier plan ou est moins bien traitée que des pays africains. Concernant l'avenir institutionnel, on dit simplement qu'il ne peut pas y avoir d'avancée à ce niveau-là tant qu'il n'y aura pas de consensus. Parce que le Parlement ne peut pas adopter le projet de loi constitutionnelle faute de consensus. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout renverser la table et repartir de zéro. Bougival, c'est la base, mais il faudra apporter un complément, condition sine qua non pour parvenir à un consensus, et dans ce cadre-là, on pourra avancer.
Et pour Mila Kolotokomouli, il y a plus de questions que de réponses après la visite de la ministre, en raison notamment, dit-il, de la situation nationale. L'éveil océanien affirme par ailleurs que le dialogue doit se poursuivre avec le FLNKS, mais que la balle est dans le camp du FLNKS. On espère, déclare Mila Kolotokomouli, qu'il reviendra autour de la table parce que c'est à lui de proposer des amendements. Et puis réaction également dans le monde économique à l'issue du séjour de la ministre des Outre-mer. Le MEDEF estime pour sa part avoir été entendu, mais il attend lui aussi des réponses concrètes sur les aides de l'État, notamment pour l'année prochaine. C'est ce que déclare la présidente du MEDEF, Nsemim Sidélé.
Nous, ce que nous soulignons, c'est la volonté de tenir un planning serré sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Nous espérons avoir de la visibilité le plus tôt possible. Pour la partie économique, mais le travail en fait se poursuit plutôt en coulisses avec les équipes de Claire Durieux. Nous travaillons toujours sur le plan de relance économique pour lequel maintenant nous attendons très précisément les arbitrages budgétaires de l'État. C'est ce qui nous a manqué pendant cette semaine de visite de la ministre. Nous avons quand même noté que ces arbitrages seraient pris à son retour à Paris. Je pense que les besoins sont bien compris, les priorités également bien identifiées. Maintenant, pour nous, le réalisme impose d'avoir une réponse sur les arbitrages budgétaires parce que c'est bien eux qui vont déterminer les montants qui pourront être alloués à ce plan de relance sur l'année 2026, qui est vraiment l'année pour nous charnière. Donc, les messages ont été passés, ont été entendus. Nous espérons maintenant des clarifications et être rassurés le plus rapidement possible.
Mais l'examen du budget de la France va se poursuivre à Paris. Le débat parlementaire devrait même encore durer 5 semaines.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Êtes-vous favorable à la consultation citoyenne anticipée sur l'accord de Bougival qui a été annoncé par la ministre des Outre-mer au terme de sa visite ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146.
RRB, il est 17h58.
Justice, à partir de demain et jusqu'à mercredi, la cour d'assises jugera la première affaire de la quatrième session de l'année. Il s'agit d'un assassinat commis en avril 2022 à Pointe-Bout. Un homme aujourd'hui âgé de 45 ans a tué son oncle handicapé d'un coup de fusil à la poitrine. Pierre-Yves Michaud, l'avocat général.
L'accusé s'est levé un matin en décidant qu'il allait tuer son oncle. On a des faits qui sont reconnus d'ailleurs, hein, mais qu'on peine à comprendre, on va dire, dans ce contexte-là. Le fait est que cet homme a trouvé la mort. L'accusé s'est levé un matin, s'est emparé de son arme de chasse, l'a chargé, s'est rendu au domicile de sa victime, sans s'arrêter, sans discuter, lui a tiré un coup de carabine en plein thorax et la victime est décédée de cette balle tirée quasiment en plein cœur.
L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le reste de l'actualité, cette petite mise au point de l'IEOM concernant les règles du paiement par espèce qui s'appliquent de la même manière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Le paiement par espèce est soumis à des règles, souligne l'IEOM, alors que quelques pratiques non autorisées ont été signalées. À titre d'exemple, l'IEOM souligne que le paiement mensuel des salaires ne peut exister possédé 179 000 francs en liquide. L'Institut des missions d'outre-mer rappelle que le paiement en espèces est interdit dans le cas d'un achat de métaux par un professionnel à un particulier ou à un autre professionnel. Interdit également le paiement en espèces pour la location de voitures. Avis aux Dumbéens, certains foyers de la commune vont changer de fournisseur électrique l'année prochaine, Charlotte Coulson.
Plus précisément, ce sont 1800 foyers situés dans le quartier de l'Ermitage, de la Pépinière, de la Caféry, du Calvaire, de Coé, Nandoué, Catiramona, des Pétroglyphes, de la Couvelée, de Valfleury et de Valsuzon. Ils étaient jusqu'alors desservis par Enercal et passeront chez EEC, et ce à compter du 1er janvier 2026. Une décision prise lors du dernier conseil municipal et qui répond à une procédure de mise en concurrence. Les sociétés EEC et Enercal se partagent la distribution de la commune. La première couvre la partie est, de Hauteuil à Catiramona, et la seconde tout le reste de Dumbéa. Le changement de concessionnaire n'entraînera aucune modification des tarifs de l'énergie, indique la ville de Dumbéa. EEC prendra contact avec les clients concernés.
Dans le Nord, à présent, des travaux de maintenance sur le bac de la Wayem. Ils ont débuté aujourd'hui et entraîneront une interruption du fonctionnement normal du bac jusqu'au 28 novembre. Les précisions de Marc Reb. Il est à la direction de l'aménagement et du foncier de la province Nord.
Les travaux, ils ont été confiés à l'entreprise Trametal de Conné. Ils sont prévus sur 2 semaines, c'est-à-dire cette semaine plus la semaine prochaine. Bon, s'il s'avère que ça dure moins longtemps, ben là, on remettra le bac en service. Et les travaux consistent à réparer des éléments du caisson, du flotteur, qui sont en ferraille, en métal, hein, qui sont corrodés par la mer. Hein. Et donc, en fait, c'est pour un petit peu pérenniser le bac qu'on fait ça. En attendant, on va fabriquer un neuf.
La direction de l'aménagement et du foncier de la province Nord informe que la circulation sera rétablie sans autre préavis à l'issue des travaux. Pour les communes, liberté, c'est le thème du 107e congrès des maires de France qui débute à Paris ce soir pour nous. La première journée est dédiée aux communes d'outre-mer, Charlotte Coulson.
Avec deux grandes thématiques, les impacts du changement climatique et la transition écologique, mais aussi la sécurité dans les outre-mer. C'est le président de l'Association des maires de France, David Linard, accompagné de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui ouvriront cette première journée de discussion. Et pour y assister, même si les associations de maires de Nouvelle-Calédonie n'organisent pas de déplacement, certaines communes ont pris l'initiative d'envoyer une délégation. C'est le cas par exemple de la ville du Mont-d'Or. Jean-Jacques Afchin, le premier adjoint au maire, est accompagné à Paris du directeur de cabinet de la maire et du directeur des services techniques. L'occasion pour eux d'échanger avec d'autres représentants des collectivités territoriales, de parler des innovations, des challenges auxquels sont confrontées les communes de France. Jean-Jacques Afchin.
C'est important parce que c'est l'occasion de rencontrer tous les organismes, les institutions, les collectivités d'outre-mer qui ont les mêmes problèmes que nous. Il y a beaucoup de débats, d'ateliers qui sont très intéressants pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut y aller et découvrir des nouvelles innovations qui peuvent être utiles pour la commune. Le gros sujet en ce moment, du reste, il y a un atelier dès lundi matin où on va participer, c'est le sujet des déplacements des populations éventuelles dues au réchauffement climatique et à la montée des eaux. Nous, on est concernés par plusieurs endroits, mais le principal endroit où on aurait un problème avec déplacement des populations, ça serait sur l'île Loindre. Donc c'est l'occasion de se confronter avec les problématiques des autres communes, justement. Oui.
D'autres communes du territoire enverront une délégation pour ce 107e congrès des maires de France. C'est le cas, par exemple, de Coumac. Wilfried Weiss participe ce lundi à Paris à une table ronde sur les impacts du changement climatique dans les Outre-mer. D'autres maires participeront à distance, comme c'est le cas de Pascal Vittori, le maire de Bouloux-Paris.
Merci Charlotte Coulson. Il est 18h, passé de 4 minutes. Première pause dans ce journal, avant de voir notamment comment l'entrepreneuriat se développe sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Info Soir, Léana Colombo.
La deuxième édition du Royal Caledonia Show est annulée. Cet événement avait été créé l'an dernier par le comité d'organisation de la foire de Bouraille, alors que les émeutes avaient mis à terre l'organisation de la foire. Il s'agissait pour les organisateurs de faire venir la brousse à Nouméa. Le Royal Caledonia Show avait été un succès et les organisateurs souhaitaient le maintenir cette année encore. Il était programmé pour les 12, 13 et 14 décembre. Mais les conditions de réussite ne sont pas réunies, a fait savoir le comité, notamment pour des questions budgétaires et financières, alors que plusieurs partenaires n'ont pas les moyens nécessaires pour soutenir cette initiative. Dans ce contexte, le comité d'organisation préfère se concentrer sur la foire de Bouraille, mais espère pouvoir relancer le Royal Caledonia Show dès que possible. Promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'était l'objectif de l'initiative itinérante du lycée Jules Garnier. Des élèves de la seconde à la terminale, accompagnés de professeurs et d'entrepreneurs, ont embarqué à bord d'une caravane pour un tour de Calédonie. Un peu spécial, Charlotte Coulson.
Un peu spécial, effectivement, car pendant 2 semaines, les jeunes lycéens ont semé des graines. Eux-mêmes ne connaissaient rien à l'entrepreneuriat avant de choisir de rejoindre le parcours entrepreneur de leur lycée, créé l'année dernière. Difficilement parfois, ils se sont familiarisés à la démarche entrepreneuriale, ont même imaginé un projet. Il y a 2 semaines, ils se sont lancés dans un nouveau challenge, celui de partager leur expérience à d'autres jeunes. Lycée Capouillet, élève de première STMG, a pris la route avec ses camarades pour semer des graines dans l'esprit de leurs camarades dans les collèges, lycées et tribus du territoire.
Au départ, j'étais excitée comme tous les camarades avec qui j'étais. J'ai parlé de mon parcours, comment j'ai débuté, etc. Comment je me sentais quand je me suis lancée dans cette démarche-là. Non, au départ, j'y croyais pas du tout. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est qui roule dans une Lamborghini, Porsche, etc. Hein, franchement, ça. Et après, maintenant, je suis confiante, je sais. Oui, j'étais attentive. Pour eux, c'était une chance d'en arriver là parce que du coup, c'était un peu comme des opportunités, c'était des portes pour eux. Par exemple, la plupart des communes et des élèves, ils ne connaissaient pas l'ADI. Et dès qu'ils ont vu ce que l'ADI pouvait faire pour eux, ben, ils ont été épanouis par l'arrivée de ces personnes-là, de nous, etc., dans toutes les communes. On a tous notre place dans l'entrepreneuriat. Même si on est en décrochage scolaire ou on est mal, etc., je pense honnêtement, et je sais que la jeunesse d'aujourd'hui, elles sont ouvertes à tous, donc je me dis que oui.
Lycée Capouillet et ses camarades se sont rendus pendant 2 semaines dans les établissements scolaires et les tribus de Koumac, Koné, Touo, Kanala, La Foi, Païta, Yaté, Ploume, Le Mont d'Or pour finir à Nouméa.
L'entrepreneuriat chez les jeunes, ce sera également la thématique de notre magazine citoyen de demain. Nous recevrons pour l'occasion Julie Micheli et Josiane Dessert, toutes deux professeures en charge du parcours entrepreneur au lycée Jules Garnier. Elles seront accompagnées d'un ou une élève qui témoignera de son expérience. Et notez ce second rendez-vous sur notre antenne. Anticiper le vieillissement de la population, c'est une préoccupation pour les institutions qui travaillent pour structurer une filière, sachant que 20% de la population aura plus de 60 ans en 2030, c'est-à-dire une personne sur 5. Dans cette filière, les EHPAD jouent un rôle important. Sont-ils en nombre suffisant et quelle est leur situation économique? Nous en parlerons demain matin à 7h30. Notre invité sera en effet, Émilie Villela, présidente de la Fédération des établissements d'accueil des personnes âgées. La 7e édition du concours des miels de Nouvelle-Calédonie s'est déroulée ce matin au JPNC. Il était ouvert à tous les apiculteurs professionnels du territoire. Les membres du jury ont dégusté 4 gammes de miel. Miel de Niaouli, miel toute fleur des îles, miel toute fleur de la Grande Terre, mais aussi le miel crémeux.
Ça fait la 4e année que je suis jury. Cette année, c'était un peu différent par rapport aux autres années. Les miels, ils sont plus homogènes. Il n'y a pas eu trop de surprises. Ils correspondaient aux caractéristiques de chaque catégorie. Donc pas de réelles surprises. Toujours de très bons miels, des belles découvertes.
Alors cette année, j'étais jury à la table des miels toutes fleurs. Ça a été des miels plus ou moins dans la même catégorie. Qui cette année, je trouve personnellement, qui n'ont pas été terribles, pas aussi bons que les années précédentes. Bon, c'est certainement les années qui font ça, hein, entre les floraisons, les mielés, les intempéries.
À ma table, on dégustait les miels de Grande Terre. C'est à peu près retrouvé sur les deux miels les plus clairs qui sont ressortis devant cette année. Et ils étaient bien équilibrés, très agréables en bouche et au nez.
La remise des prix a donc eu lieu à midi. Les médailles décernées ont été réalisées cette année par les stagiaires de l'atelier menuiserie et métallique de JAPNC. Caroline Fèvre, apicultrice sur la commune de Dumbéa, a remporté 2 prix.
Alors, j'ai eu la médaille d'argent pour le miel crémeux. En fait, c'était 2 médailles d'argent ex aequo, les vainqueurs du concours sur le crémeux. Et puis, j'ai eu une médaille d'or sur le miel polyfloral Grande Terre. Évidemment, je suis très contente parce que ce concours, pour moi, il a une valeur. C'est le concours territorial de Nouvelle-Calédonie, hein, le concours des miels officiels. Et pour moi, c'est la récompense pour mes petites abeilles parce que c'est un concours à savoir-faire et un concours en même temps apicole. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de critères de savoir-faire apiculteur et un critère aussi de savoir-faire des abeilles. Voilà, c'est une spirale positive. Et en ce moment, je peux vous dire qu'une spirale positive dans le commerce et dans son entreprise, eh ben, ça fait vraiment du bien.
Caroline Fèvre, apicultrice sur la commune de Dumbéa, qui a donc remporté 2 médailles dans ce concours. Plusieurs apiculteurs, acteurs des métiers de la restauration et des métiers de bouche ont participé à cette 7e édition du concours des miels de Nouvelle-Calédonie. Il est 18h passé de 11 minutes, seconde pause avant d'ouvrir notre page sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine ? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments au chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances ! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et on ouvre notre page sport avec de la force athlétique. Pour sa première participation à une compétition internationale, Victor Thierbach n'a pas tremblé.
Et non, il était engagé ce lundi aux Océaniens en Nouvelle-Zélande et il a fièrement représenté la Nouvelle-Calédonie. Il remporte l'or dans sa spécialité, le développé couché dans la catégorie Open, moins de 120 kilos. Dès le premier essai, il en a 3. Il a mis tout le monde d'accord, 215 kilos, soit seulement 5 kilos de moins que son record personnel. Ses concurrents n'ont soulevé entre guillemets que 192,5 kilos et 150 kilos. On écoute Victor Thierbach, qui est donc victorieux de ces Océaniens.
La compétition est passée. Elle ne s'est pas du tout déroulée comme je l'imaginais. J'ai été pesé à 118,55 kg, donc assez léger finalement, où j'ai dû m'occuper de la partie de l'organisation. Ce qui m'a un peu perturbé, mais je suis content parce que je reviens avec la plus belle des médailles, du coup, la médaille d'or. Donc, sacré champion du Pacifique en open, moins de 120 kilos au développé couché. On n'aurait pas pu espérer mieux. C'était une expérience vraiment super intéressante avec des pays de tout le Pacifique, avec leurs problématiques aussi. Et ça nous remet un peu à notre place. Ça nous rend humble face aux difficultés qu'on a tous les jours. C'était vraiment une super expérience parce que c'était vraiment les valeurs du sport, du partage, et c'est ça qui est magnifique. J'ai hâte de rentrer au pays avec cette belle médaille.
Victor Thierbach, vainqueur donc des Océaniens de force athlétique, c'était ce matin en Nouvelle-Zélande.
Il y avait du futsal aussi ce lundi. L'SPTT, vainqueur de la Super League 2024, participe à la Ligue des champions d'Océanie, la O-League. Après avoir battu le Matak FC hier, les Calédoniens affrontaient le Southern Legends FC.
Et ça a commencé comme lors du premier match. Un but encaissé, puis la révolte. Les Vanuatés ont donc ouvert le score avant la pause, puis les Calédoniens ont égalisé avant de prendre les devants. Mais les joueurs du Southern Legion FC ont égalisé à seulement 5 minutes de la fin. De partout, le score ne bougera plus. Les deux équipes se quittent donc dos à dos. Michel Wassine est le coach de la SPTT. Écoutez.
C'était un match serré, un peu compliqué pour nous en première mi-temps, parce qu'on n'arrivait pas à trouver le rythme du match, sûrement peut-être à cause du match d'hier. Je ne sais pas, on a laissé peut-être quelques plumes hier. Mais bon, on s'en sort pas mal quand même sur un duel face à une belle équipe de Vanuatu. On va essayer de bien récupérer, parce que je pense que c'est plus la fatigue peut-être une part de concentration en première mi-temps, mais on va analyser ça propre et on fera le bilan entre nous ce soir, dès ce soir.
Les Calédoniens de la SPTT Futsal restent donc invaincus dans cette Ligue des Champions d'Océanie. Une victoire 6-1 contre le Matax FC, un match nul 2-2 contre Southern Legion FC. Rendez-vous déjà demain pour un duel contre le Suva Football Club. Début de la rencontre à 18h de Nouméa, une rencontre à suivre sur le site FIFA+.
Le sport sur le territoire à présent avec un événement à venir le week-end prochain à Nouméa, la Rainbow Race. Une course qui se déroulera samedi après-midi sur la promenade Pierre Vernier. Nous en avons parlé ce midi dans le Mac des Sports avec son organisatrice Caroline Favier de l'association Fit Énergie. Elle espère que ce rendez-vous attirera un large public.
5 km, plein de couleurs, plein de fun. Alors le principe de la Rainbow Race, c'est simplement se faire plaisir. C'est pas une question de chrono ou de temps. C'est de mettre le t-shirt blanc qu'on leur offre dans leur package et de courir sur 5 km. Donc tous les kilomètres, on a une étape de couleurs. Et là, ils se font asperger de couleurs. Donc on aura 5 étapes de couleurs. Ensuite, on se rejoint dans une zone qui sera également la zone départ. On se rejoint dans cette zone. On a cette année plein d'animations pour justement tenir les gens, pour pouvoir rester jusqu'au lancer final qui se fait en principe vers 16h15. Cette année, on a vraiment décidé de mettre des marchands ambulants, ça fait bosser aussi les gens du territoire, de rajouter un château gonflable pour les ptios. Et puis on a mis 2 animateurs et un groupe de danseurs également un peu de partout. Donc non, je pense que cette année, il va y avoir de l'animation sur le village. Ce sera un village dynamique, je pense que ça va vous faire rester jusqu'à 16h15.
Ce sera la 8e édition de la Rainbow Race. La distribution des t-shirts et des packs de la Rainbow Race 2025 se fera notamment à EEC de 11h à 18h de mercredi à vendredi. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'à mercredi soir minuit sur le site inlive.nc. Et puis on termine avec du football. Samedi, l'AS Magenta affrontait le Mulhouse FC, club de National 3, pour le compte du 7e tour de la Coupe de France, Léo.
Et malheureusement, on l'a déjà dit, répété, les Calédoniens se sont inclinés 3-0 contre des Alsaciens qui n'étaient pas venus en vacances et pourtant, les joueurs d'Hakim Abeich ont pu profiter quelques jours du territoire. Un voyage qui forge un collectif, nous a dit cet après-midi, avant le retour en métropole, le coach du FC Mulhouse. Écoutez.
C'est l'expérience d'une vie, ça arrive que très rarement, à part ceux qui ont les possibilités de voyager quotidiennement et qui plus est en groupe. Humainement, ça a rapproché énormément les joueurs, de vivre une semaine ensemble, sous un climat plus qu'agréable et en finalité de pouvoir se qualifier. Ça reste une semaine particulièrement enrichissante et bénéfique à tous les points de vue.
Qu'est-ce qu'on retient, mis à part le résultat de cette semaine ?
La découverte d'un paysage fabuleux, de gens extrêmement accueillants, gentils, bienveillants. Et ça change un peu de ce que l'on peut vivre, nous, au quotidien en métropole. Et c'est vraiment ressourçant et reposant surtout de venir ici. Et voilà, c'est ce qu'on retiendra surtout.
Le FC Mulhouse qui s'envolera la nuit prochaine pour la métropole après avoir battu, je le rappelle, l'AS Magenta 3-0 en Coupe de France, c'était samedi.
Merci beaucoup Léo Fichou, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et voyons toute la météo avec vous Pierre.
Cette nuit, les nuages domineront largement sur la façade ouest avec encore quelques averses résiduelles en soirée, notamment sur le nord-ouest. Des loyautés jusqu'à la pointe sud, le ciel restera chargé, accompagné de bonnes averses parfois marquées sur le sud-est. Ailleurs, le temps restera sec. Le vent de nord-est soufflera faiblement autour de 5 nœuds mais pourra atteindre 10 à 15 nœuds sur les pointes de la Grande Terre et dans certaines vallées de la côte ouest. La nuit sera chaude avec des températures comprises entre 19 et 23 degrés et jusqu'à 24 à 25 degrés sur la pointe nord. Demain matin, quelques éclaircies résisteront sur les loyautés et en début de matinée sur le nord-est, mais le ciel restera globalement chargé. De petites ondées circuleront du sud des loyautés jusqu'à l'île des Pins, tandis que sur le nord, quelques gouttes éparses sont possibles. Le vent de nord soufflera entre 5 et 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur les pointes nord et sud. Sur la façade ouest, une brise de sud-sud-ouest se mettra en place dans la matinée. Et côté marée, pour nos amis les pêcheurs, la mer sera basse vers minuit 30 avant de remonter au petit matin pour une pleine mer attendue vers 7h.
Et merci beaucoup Pierre pour tous ces détails. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.